Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvie, Alphonsine, Robert
et Nathanaël.
Nous avons reçu pour le dernier comité de lecture de la saison René Frény pour son livre « Je me souviens de tous vos rêves » paru chez Gallimard en janvier 2016. Pour célébrer l'arrivée de l'été, nous avons organisé cette rencontre au Centre Jean Giono.
Avec René Frény était animée par Nathanaël et Sylvie qui ont également lu à haute voix plusieurs passages du livre à la demande de l'auteur. De nombreuses personnes avaient déjà lu le texte et ont posé des questions ou fait des commentaires.
Alors René Frény, c'est un manosquin que nous connaissons bien. Il est né en 1947 à Marseille. Et il est l'auteur d'une vingtaine de livres, dont beaucoup de romans noirs. Mais il a également écrit des souvenirs d'enfance et de jeunesse. Donc il a eu une jeunesse mouvementée, il a fait les 400 coups, il a même tâté à la prison militaire. Et la prison a été une source d'inspiration pour lui, car il a découvert la littérature, il a passé ses journées à lire et à écrire. Et ça lui a donné... Alors il a beaucoup aimé L'étranger de Camus, Colline de Giono, et... C'était pour lui le début d'une passion littéraire. Donc il a écrit des romans et il a également fait des ateliers d'écriture dans les prisons. Le livre dont nous allons vous parler, « Je me souviens de tous vos rêves », est dans la lignée de son dernier livre qui s'appelait « La fiancée des corbeaux » qui était paru en 2011. On y parcourt Manosque et ses collines au rythme des saisons. Au gré de ses promenades, il rencontre des hommes et il se souvient d'autres qui l'ont marqué. Son père, avec lequel il partait chasser. Joël, le libraire de Banon, grandeur et décadence, hélas. Et Robert va vous lire un petit passage de Joël, le libraire de Banon.
Cet homme, je l'ai connu il y a une vingtaine d'années. De longs cheveux blonds tombaient sur ses épaules. Ses yeux étaient plus bleus que la mer. Une tête de viking sur un corps presque chétif. Nous devions être seuls ce jour-là dans les ruelles de Banon. C'est l'époque où, dès septembre, on n'y entendait plus que le vent et les corneilles. Joël Gattefossé venait juste d'acheter une librairie cadeau souvenir, pas plus grande qu'une cuisine. C'est donc l'histoire de ce tout petit libraire que je voudrais retracer en quelques mots, petit par sa taille et la taille de sa librairie. En 20 ans, Joël Gattefossé est devenu l'un des plus grands libraires de France, dans l'une des plus merveilleuses librairies. Et cet homme va retomber dans l'oubli, si ce n'est pas beaucoup plus bas. Il va redevenir tout petit et personne ne se souviendra de lui. Mais à Banon, on y vend à présent des saucisses au kilomètre. Elle le mérite. Le Banon, dans sa feuille de châtaignier, est célèbre dans les îles les plus oubliées du Pacifique. L'hôtel des voyageurs refuse du monde à midi. Il y a des salons de thé aussi chics qu'à Aix, avec des chaises en fer forgé et des tasses plus délicates qu'une aile de papillon.
Nous parle aussi de Pierre, le solitaire photographe de déchets, d'un SDF ingénieur et bien sûr de sa défunte mère qui veille toujours sur lui grâce à une photo posée sur la bibliothèque au milieu de ses livres préférés. Avec Nathanaël, nous allons vous lire un passage qui nous a beaucoup émus, qui parle de sa mère à travers un rêve.
Il est 5h du matin, je viens de me réveiller au milieu d'un rêve.
J'arrive la nuit dans le village de mon enfance. Toutes les façades ont été refaites. Les portes sont fermées. Qui habite ici maintenant? Le village dort. Je reviens après des années. J'ai besoin de ma mère. Notre porte aussi est fermée. Est-ce que ma famille vit encore là?
Je frappe du plat de la main. La porte s'ouvre. Je traverse le petit vestibule où sont accrochées nos vestes. Une odeur de salpêtre et de melon monte de la cave.
J'entre dans notre cuisine.
La lampe est allumée. Sur la table ronde, il y a du houx, du feuillage.
Ma mère est debout, près du gaz, où je l'ai toujours vue.
Rien n'a bougé.
Elle me sourit tendrement, comme si je sortais de la chambre.
Je ne lui ai pas donné de nouvelles depuis des années, et elle me sourit.
Elle ne dit rien.
Elle porte sa veste de coton rouge sur un chemisier blanc.
Je prends son petit corps dans mes bras, et je pleure.
Je ne peux plus la lâcher, plus m'arrêter de pleurer.
Pourquoi l'ai-je tant fait souffrir pendant toutes ces années ? Tout ce silence.
Elle m'a attendue.
Sa porte est restée ouverte, même la nuit.
Je sens son petit corps si heureux contre le mien.
Ce corps fragile qui m'attend depuis des années et qui pleure de bonheur.
J'ai été réveillée par les pleurs de ma mère au fond de ma poitrine, comme elle recevait, dans la sienne jadis, la secousse des miens.
Le jour, ma mère est morte.
La nuit, les portes s'ouvrent et les morts sont vivants.
Je fais ce rêve souvent. Presque toutes les nuits, parce que j'ai chaque jour besoin de voir ma mère, d'être près d'elle, comme il y a 20 ans.
Elle est debout, près du gaz ou de l'évier. Combien de fois m'a-t-elle dit
« Allume le gaz, baisse le gaz, aide-moi à essuyer la vaisselle, donne un coup d'éponge sur la toile cirée. »
Ces mots me manquent, et l'odeur de toutes les herbes qu'elle allait ramasser dans les collines par tous les temps.
La nuit, je la serre dans mes bras.
Le jour, je la cherche dans les collines.
Donc voilà, c'était un passage... très joli sur l'évocation de sa mère. D'ailleurs, je pense qu'il a été ému quand on a lu ce passage mardi soir. Alors, il nous parle de beaucoup d'autres personnages. Envra, qui nous parle de sa fille et d'une jeune voisine de son âge, isolée, qu'il n'ose pas aborder alors qu'il la sent si fragile. Il nous confie aussi sa nécessité d'écrire pour se sentir vivant. Chaque mois de septembre, il achète un cahier d'écolier qui a besoin de lui et de ces mots pour exister. Donc nous allons vous lire le début du roman où il parle de septembre et de son cahier d'écolier. Septembre.
Chaque année en septembre, j'ai peur de mourir. Alors j'achète un cahier.
J'ai peur de mourir depuis l'âge de 5 ans. Tous les jours, à chaque heure du jour et encore plus au milieu de la nuit quand je vais aux toilettes sans allumer.
Si j'allumais, j'aurai encore plus peur.
En septembre, c'est beaucoup plus cruel. C'est si beau, septembre, si limpide, si bleu.
Chez nous, ici, c'est le plus beau mois de l'année.
Ce n'est pas un mois, c'est un fruit.
L'après-midi, je vais au bord des rivières cueillir des mûres sauvages.
À travers les infranchissables ronciers, j'entends les derniers cris d'enfants qui glissent dans le courant sur de noires chambres à air de tracteurs.
Ils sont libres comme l'eau verte qui file entre les roseaux. Aussi libres... et sombre que le caoutchouc où ils s'agrippent de tous leurs ongles, encore immortels.
Les ronces déchirent mes bras, mes mains.
Je suis vivant.
Je suis vivant parce qu'un cahier m'attend, vierge encore, blanc.
Il est posé sur la table de ma cuisine et il m'oblige à être vivant.
Il m'attend comme un enfant.
Je ne lui apporte que les mots d'une mère à son enfant.
Il a besoin de moi pour se mettre à vivre.
Un jour, je ne serai plus là pour sentir sur ma peau toute la beauté de septembre, son immense douceur, tous les mots que je trouve en marchant sur les galets brûlants des rivières ou dans la poussière des champs.
Après le 15 août, les amandes s'ouvrent et tombent au bord des chemins. Deux ou trois frelons tournent autour des plus hauts rameaux, puis se glissent dans le tronc creux de ces arbres que personne n'a plantés.
Et qui se demandent, depuis 100 ans, comment ils sont arrivés là.
Septembre est le mois des amandes, des noisettes, des noix.
On n'a qu'à s'asseoir sur les talus et les casser entre deux pierres.
Ou remplir ses poches et les ramener chez soi comme un écureuil.
Le figuier est moins intrigant. Il se choisit une ruine et s'installe dedans.
Je connais toutes les ruines des collines, les bergeries abandonnées, le tas de pierres d'un ancien pigeonnier. Chacune a son figuier.
Je suis le voyageur de septembre. Je saute d'une ruine à l'autre. Et dans la chaleur de ces longs après-midi de fin d'été, j'ouvre avec mes deux pouces ces fruits bouillants. 1000 graines d'or scintillent dans un sucre pourpre.
C'est comme ça que j'écris maintenant.
Maintenant que je vis seule.
Maintenant que je vieillis.
J'écris dans les ruines, à 3 heures de l'après-midi.
Dans l'immense silence bleu des collines. Thank you. raconte aussi plusieurs épisodes qui l'ont marqué. Par exemple, celui de la mort de son chat, tombé du 4e étage. Ce chaton qu'il avait sauvé 10 ans plus tôt dans l'ancien quartier des condamnés à mort de la prison des Baumettes. Je vous ai dit tout à l'heure que René Frégny faisait des ateliers d'écriture. Il en a fait aux Baumettes. Et ce chat est tombé du toit d'où il avait glissé. Drôle de destin pour ce chat tombé 2 fois. Une fois en venant au monde, une fois pour mourir. Ce chat était important pour René Frégny car il était le témoin de son écriture. En effet, il travaillait en le caressant. Il lui manque tant qu'il entreprend un voyage au hasard et se retrouve à Besançon. À la fin du livre, nous sommes en janvier 2015, et René Frégny parle de l'immense besoin de paix et de justice ressenti après les attentats de Charlie et de l'hypercachère. Robert va vous lire un passage de ses réflexions sur ces attentats.
La vérité n'est pas dans les abbayes, les temples, les tables de la Torah ou les feuillets du Coran. La vérité n'existe pas. Elle est un peu partout, dans la justice, la tendresse et la vie. En m'éveillant, je me suis souvenu ce matin de la phrase de Nietzsche. Le pire ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, c'est la conviction. Tous ces morts pour d'aussi bêtes, d'aussi absurdes convictions. À 19 ans, j'ai adoré le Che. À 30 ans, Don Quichotte. Le premier combattait l'injustice dans les forêts, l'autre dans ses songes. Tous les deux moururent vaincus, écrasés par la réalité de l'homme. Un homme égoïste et généreux, abject et sublime. Nous avons tous, dans nos vies ou dans nos rêves, des instants monstrueux, des recoins innommables. Aucun d'entre nous ne peut vivre sans beauté.
Plusieurs anecdotes tendres et amusantes nous ont séduites, dont celle de la photo des seins de la femme du facteur, que nous allons vous lire avec plaisir.
Il y a 3 jours, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une grande enveloppe cartonnée.
Je l'ai ouverte au pied de l'escalier, comme je le fais chaque matin.
À l'intérieur, une étonnante photo.
Une paire de seins.
2 seins ronds.
Plein,
lumineux,
magnifique.
Juste une éblouissante poitrine de femme.
Sans tête ni corps.
Il y avait un petit mot.
Je suis facteur. J'ai lu tous vos romans. Nous partageons la même passion, la même fascination pour les seins.
Je vous envoie ceux de ma femme que j'ai moi-même photographiés.
Je les trouve tellement beaux.
Il faut que vous en parliez dans votre prochain roman.
J'ai éclaté de rire.
Si l'une de mes voisines était passée à cet instant et m'avait surpris en train de rire, les yeux rivés sur cette paire de seins, ma réputation était faite.
C'est certainement déjà fait.
Un homme qui écrit depuis 20 ans des choses étranges et qui fait écrire des assassins dans de sinistres prisons.
Je ne sais pas exactement ce qui se murmure sur mon compte dans ce couloir, mais la lettre du facteur me prouve bien que chacun connaît mes obsessions.
Bref, je suis remontée chez moi et j'ai glissé la photo dans un tiroir.
Un moment plus tard, je me suis dit...
Tout de même, de si beaux seins dans un tiroir.
J'ai repris la photo et je l'ai posée droite contre le compotier, au milieu de la table de ma cuisine.
Ainsi, en mangeant, je peux l'observer.
Apprécier le galbe souple et l'obscurité tendue des mamelons de cette extraordinaire poitrine.
L'empreinte d'une patte de chat est tatouée sur le sein gauche.
On reconnaît bien les 5 coussinets, les griffes.
Il en a de la chance, ce chat.
Je mange beaucoup plus volontiers.
Ce n'est jamais une fête de manger seul.
J'en étais là de mon repas ébloui lorsqu'Isabelle a surgi dans la cuisine.
Je ne l'entends jamais arriver.
Elle ne met pas de talons.
Qu'est-ce que c'est, m'a-t-elle demandé, quelque peu interdite.
Quoi?
Cette photo?
Les seins de la femme du facteur.
Qu'est-ce qu'ils font là, les seins de la femme du facteur?
Il me les a envoyés pour que je m'en inspire dans l'un de mes romans.
Quel facteur? Et pourquoi toi?
Je n'en sais rien.
Elle a saisi la photo et l'a à son tour observée longuement.
Je ne me fais aucun souci. Isabelle est très intelligente. Lorsque quelque chose est beau, elle le reconnaît sans les réserves et les petites piques de la jalousie.
Elle a simplement dit en reposant la photo, « C'est une magnifique poitrine. Il a de la chance, le facteur. »
Elle a beaucoup de goût et de noblesse. « Il faudrait peut-être le remercier, ai-je suggéré. »
Le remercier? Comment?
Toi aussi, tu as une poitrine fabuleuse. Tu n'as rien à leur envier. Il y manque que la patte du chat.
Elle a éclaté de rire. Cette photo, décidément, faisait rire tout le monde.
C'est le propre de la beauté de susciter de la joie.
Tu es encore plus malade que le facteur, a-t-elle dit, en posant ses deux mains sur ma tête, comme pour la refroidir.
C'est une femme très intelligente et malicieuse sous sa discrétion. Il n'aurait pas fallu que je la pousse trop.
Je me suis aperçue un peu plus tard que ses yeux ne brillaient pas que de malice.
La photo est restée tout l'après-midi contre le compotier.
Et il me semble qu'Isabelle allait très souvent dans la cuisine. À chaque page, la poésie est présente et nous rappelle parfois celle de Giono. Alors, celle de Giono, elle est particulièrement présente. Moi, je trouvais que ça ressemblait un peu au poème de l'olive que Marie-Christine Barrault a donné d'ailleurs en lecture pour la passation de Lou Paraïs à la ville. Et lorsqu'il enterre son chat Baumette, dont Sylvie nous a parlé, il va l'enterrer sous les oliviers alors qu'on ramasse les olives. À travers le drap, je ne sentais plus la dernière tiédeur de Baumette. L'après-midi était calme et limpide. Des gens ramassaient des olives un peu plus bas, montaient jusqu'à moi, leur voix éternelle et rassurante. Je me suis assis, le dos appuyé contre le tronc du chêne. Rien n'avait changé ici. De légères fumées s'enroulaient au-dessus des fermes et par-delà les premières collines dans la vallée de la Durance. L'eau brillait, ça et là, au bout de longues raies rouges de pommiers. Et alors, ça, on est plutôt en septembre, mais il a l'évidence de la poésie, enfin, ce que je dis, l'évidence de la poésie, parce que moi, j'ai toujours entendu les martinets, et il fait une remarque assez intelligente sur le départ des martinets. Alors, je vous lis juste ce petit passage qui, moi, m'a fait un peu rêver. Des nuages blancs glissaient sur la colline. Le ciel était vide d'oiseaux. Je remarque chaque année l'arrivée des martinets. Un beau matin, ils déchirent le ciel de leurs cris. Leur départ, personne ne s'en aperçoit. Des millions de faucilles noires sont lancées vers l'immense ciel ocre d'Afrique. Septembre est un long silence bleu. Alors que c'est vrai que l'été est annoncé par le cri, et là en ce moment, on les entend, des martinets. Et puis parfois, on peut même sortir une seule phrase, et dans une seule phrase, je trouvais que c'était comme des mini-haïkus. On l'avait déjà remarqué, ce phénomène, pour son précédent livre que Sylvie et d'autres lecteurs ont beaucoup aimé, « La fiancée des corbeaux ». Une petite phrase sortie qui dit toute sa poésie. « Les après-midi sont des abricots silencieux et tièdes. » Donc, on a beaucoup apprécié. Et comme on finit sur cette petite note bucolique, eh bien, à l'issue de la rencontre, René a dédicacé ses livres et nous avons levé le verre de l'amitié et à la littérature dans le jardin du centre qui était rempli des odeurs de jasmin et de chèvrefeuille. Car c'est le centre Jean Giono. À un très joli jardin que l'on peut visiter hein, tout à fait librement. et du coup profiter. Je laisse Robert parler d'un scoop avant de reprendre sur le centre Jean Giono.
Donc René Frény, à la fin de notre rencontre, nous a dit qu'il avait rencontré il y a quelques mois un ancien détenu de la prison des Baumettes. Il l'a rencontré à plusieurs reprises et c'est à partir de son histoire qu'il a construit son prochain livre qui sortira, mais je ne vous dirai pas quand, car René Frény lui-même ne connaît pas la date de sa sortie. Il faudra patienter pour en savoir plus.
Comme je vous l'ai dit, nous avons été accueillis au centre Jean Giono. Et au centre, donc en plus d'avoir ce très joli petit jardin, vous avez en ce moment une très belle exposition qui a été faite en collaboration avec la maison, enfin le centre qui est consacré en Allemagne à Erich Maria Remarque. Et cette exposition, donc, elle a été transportée d'Allemagne en France, et elle a été mise au centre Jean Giono. Elle est bilingue, elle est très intéressante, et elle met en valeur et en exergue toute la vie de ce grand écrivain, Erich Maria Remarque, qui était aussi un grand pacifiste. Et donc, on vous invite à aller la visiter. Hein, elle est aux horaires, elle est visible aux horaires du centre, 10h, 12h, 14h, 18h. Et grâce à Alphonsine, nous allons en savoir beaucoup plus sur ce grand écrivain et surtout sur son livre majeur, c'est-à-dire « À l'Ouest, rien de nouveau ».
Alors, « À l'Ouest, rien de nouveau » d'Erich Maria Remarque. Ce livre est paru en 1929, réédité en 2013 aux éditions Stock, La Cosmopolite. L'auteur, donc il est né à Osnabrück en 1898, c'est une région d'Allemagne. Il va mourir en 1970 en Suisse. Il sera déchu de sa nationalité en 1938, d'où l'exil aux États-Unis et en Suisse. Son livre connaît un vif succès dès sa parution et un film sortira en 1930. En 1933, le livre sera brûlé en place publique par les nazis. Ce livre-ci a une préface qui est écrite par Patrick Modiano. Et il dit ceci dans cette préface. Au milieu de cette horreur quotidienne qu'il décrit d'un ton égal, il y a parfois une note sentimentale, la douceur d'une élégie, une échappée vers le ciel, un instant de bonheur que l'on vit en fraude. Tout le livre est au présent indicatif. Plus de passé ni d'avenir pour ces très jeunes gens, ces enfants. Quand on leur accorde quelques jours de permission, ils se sentent étrangers parmi leurs proches et ils doivent leur mentir pour ne pas les effrayer. Une cassure s'est produite chez eux avant même que la vie ait pu tenir ses promesses. Donc c'est un roman qui se déroule pendant la guerre 14-18. Les jeunes lycéens sont fortement incités par leurs professeurs à s'engager. Ils ont 18 ans et ils ne savent rien de la vie. Ils vont se retrouver ensemble et leur amitié qui les unissait va se renforcer. Et c'est ce qui leur permet, comme ils disent, de tenir. La vie au front est parfois un véritable cauchemar. Et en voici un exemple. Pour la personne, pour personne, la terre n'a autant d'importance que pour le soldat. Lorsqu'il se presse contre elle longuement, avec violence, lorsqu'il enfonce profondément en elle son visage et ses membres, dans les affres mortelles du feu, elle est alors son unique amie, son frère, sa mère. Sa peur et ses cris gémissent dans son silence et dans son asile. Elle les accueille et de nouveau, elle le laisse partir pour 10 autres secondes de course et de vie. Puis elle le ressaisit, et parfois pour toujours. Terre, terre, terre. Terre avec tes plis de terrain, tes trous et tes profondeurs, où l'on peut s'aplatir et s'accroupir. Oh, terre dans les convulsions de l'horreur, le déferlement de la destruction et les hurlements de mort des explosions. C'est toi qui nous as donné le puissant contre-courant de la vie sauvée. L'ébranlement éperdu de notre existence en lambeaux a trouvé un reflux vital qui est passé de toi dans nos mains. De sorte que, ayant échappé à la mort, nous avons fouillé tes entrailles, et dans le bonheur muet et angoissé d'avoir survécu à cette minute, nous t'avons mordu à pleine bouche. Comment se prémunir de la folie sous les pluies d'obus, le gaz, les tranchées envahies par les rats énormes et répugnants qu'il nomme rats de cadavres. La crasse, la boue sont omniprésentes. Ce qu'il manque, par contre, sont les rations de nourriture. Et quand les lignes de front sont remplacées, c'est presque du bonheur. Krop et Müller sont en conversation. Krop est le seul à avoir quelque chose à manger, une gamelle de lentilles qu'il a trouvée probablement à la cuisine des soldats du génie. Müller louche du côté des lentilles, mais il se le contient et dit « Et Westus, que ferais-tu si la paix arrivait ?»« Il devrait te botter le cul pour oser parler ici d'une chose pareille, dis-je. Comment peux-tu » Une telle question est trop forte pour Westus. Il balance son crâne taché de rousseur. « Tu veux dire si la guerre était finie ?»« C'est cela, tu comprends tout ce qu'on te dit. » »« Alors, il y aurait de nouveau des femmes, n'est-ce pas ?» Se disant, Westus se lèche les babines. « Oui, ça aussi. »« Pas mes boyaux, dit Westus, tandis que son visage se dégèle. « Alors, je mettrai le grappin sur une solide gaillarde, une grosse marie, tu sais, avec tout ce qu'il faut pour s'y tenir bien ferme. » Et au plumard. « Imagine, un véritable lit de plumes avec un sommier élastique. Les gars, pendant 8 jours, je ne remettrai plus mon pantalon. » Tout le monde se tait. L'image est trop admirable. Des frissons nous parcourent la peau. Donc, il y a des scènes horribles, sanglantes, mais aussi une magnifique leçon d'espoir et de pacifisme. Krop, lui, est un penseur. Il propose qu'une déclaration de guerre soit une sorte de fête populaire, avec des cartes d'entrée et de la musique, comme aux courses de taureaux. Puis, dans l'arène, les ministres et les généraux des deux pays, en caleçon de bain et armés de gourdins, devraient se précipiter les uns sur les autres. Le pays de celui qui resterait debout le dernier serait le vainqueur. Ce serait un système plus simple et meilleur que celui où ce ne sont pas les véritables intéressés qui luttent entre eux. La proposition a du succès. Puis la conversation porte sur le dressage du soldat à la caserne. Donc, Remarque analyse avec lucidité les conséquences de cette guerre meurtrière. Et à un moment, il dit « C'est l'automne. Des anciens soldats, il n'en reste plus beaucoup. » Je suis le dernier des 7 sortis de notre classe. Chacun parle d'armistice et de paix. Tout le monde attend. Si c'est encore une désillusion, ce sera la catastrophe. Les espérances sont trop fortes. Il n'est plus possible de les écarter sans qu'elles fassent explosion. Si ce n'est pas la paix, ce sera la révolution. Donc, moi, j'ai relu ce livre avec autant d'émotion, sinon plus. Mais je vous le conseille, et c'est une belle leçon de vie et d'espoir. Et une écriture vraiment sublime. Donc, c'était « À l'Ouest, rien de nouveau » d'Éric Maria Remarque, aux éditions Stock.
Aujourd'hui, nous vous avons donc parlé du livre de René Frégny, « Je me souviens de tous vos rêves », paru chez Gallimard en 2016, et de « À l'Ouest, rien de nouveau » d'Éric Maria Remarque, dont la préface de Modiano dans l'édition parue chez Stock il y a peu de temps, en 2013. Je voudrais vous annoncer, pour nous c'est un événement, hein, demain soir, donc vendredi à 20h30, à l'auditorium de l'école de musique, nous, les lecteurs du comité de lecture, participerons à un spectacle avec les clarinettistes du conservatoire de Digne et de Manosque, intitulé « Du baroque au XXe siècle ». De Lully à Mancini, de Molière à Apollinaire, nous parcourrons les siècles avec textes et clarinettes. Il y aura des textes poétiques, des textes qui donnent à réfléchir, mais également des textes faciles parce qu'il y aura quelques petits musiciens. Donc nous avons prévu quelques musiques et quelques textes amusants pour tous les âges. Donc c'est à 20h30 demain soir dans le nouvel auditorium de l'école de musique à Manosque. Nathanaël va également vous parler d'une exposition qui se déroule à la Fondation Carzou. Alors, Nathanaël ne va pas vous en parler, c'est moi qui vais vous en parler. Alors, non, c'est Alphonsine.
Alors, il s'agit d'une exposition de photos, et c'est Peter Knapp qui les a faites. Ce Peter Knapp est très connu, il est photographe à Elle et dans d'autres revues. Que vous dire d'autre ? Ces photos, elles sont vraiment magnifiques. Et ce jour-là, nous avons eu la chance, c'était le vernissage, d'avoir Peter Knapp avec nous. Et il nous a dit le pourquoi de ces photos. Ce qui était très intéressant, de savoir à quel moment il était sollicité par ces photos. Donc il y a des photos, moi, qui m'ont marqué, par exemple. C'est 8 femmes enceintes, des nues, au même moment de grossesse, donc au 8e mois. Et ces femmes enceintes sont de profil ou de face, suivant ce qu'elles ont voulu. Et c'est vraiment une représentation magnifique de la femme. Et d'autant plus qu'il nous dit, ensuite, ces femmes, une fois qu'elles ont accouché, sont revenues voir l'exposition de leurs photos avec les bébés. Et donc, il y avait apparemment 8 filles et un gars. Et d'autres photos aussi qui sont importantes, c'est à travers une pierre ou des bois, Peter Knapp a saisi le visage d'une personne et on voit sur un fond de pierre, par exemple, se dessiner des visages de profil. Donc ça nous met en émoi, voilà. Et moi, je vous le conseille.
Peter Knapp est toujours invité aux nuits photographiques de Pierre Vert qui se dérouleront comme tous les ans fin juillet à Pierre Vert, et nous accueillons à Pierre Vert de nombreux photographes. Voilà, je ne sais pas si mes compagnons ont d'autres annonces à faire. Donc nous vous remercions, nous remercions notre technicienne et nous disons à bientôt.
Au revoir.